Le samedi soir, c'est à CKIA que ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi 21h.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici votre bulletin du vendredi 23 janvier 2026. Une première délégation de travailleurs de la DEVI s'envole aujourd'hui pour la Finlande. Il s'agit d'un projet de transfert des savoirs rendu possible grâce à une entente entre le Syndicat des travailleurs du chantier naval de Lauzon, CSN, et l'employeur. Quatre soudeurs-monteurs, accompagnés du président du syndicat, d'un contremaître et d'une directrice, prendront part au voyage. Pendant tout le mois, la délégation travaillera avec les équipes du Helsinki Shipyard afin de voir sur place les façons de faire. La DEVI s'est portée acquéreuse en 2023 de la Helsinki Shipyard Oy, un contrat de construction de brise-glace polaire conclu avec le gouvernement du Canada mettra à contribution les deux chantiers. La Fondation Monique Fitzbach, dont le siège social est situé à Québec, a annoncé qu'elle soutiendra 122 projets éducatifs innovants à vocation environnementale et sociale dans le cadre de son programme d'aide financière. Les projets soutenus permettront de sensibiliser plus de 37 000 jeunes autour des thématiques de changement climatique, gestion des matières résiduelles, éducation en plein air, vivre ensemble et comité jeunesse. Il s'agit d'une année record, tant par le nombre de projets reçus que par la valeur totale des subventions attribuées, s'élevant à 120 000 $. C'est demain soir que se tiendra la 8e édition de la Nuit de la lecture à la Maison de la littérature. Il s'agit d'une soirée décontractée où le public peut entendre les auteurs et autrices lire leurs propres créations. Tricot, mandala, casse-tête et breuvage chaud seront également au rendez-vous. L'activité se déroule en continu de 19h à 23h. On peut arriver et repartir quand on le souhaite. L'entrée est gratuite. La Maison de la littérature est située au 40 rue Saint-Stanislas dans le Vieux-Québec. Également demain, assister à l'adaptation scénique du roman de Malcolm Reed, Salut Gadou. Sous la direction artistique d'Hélène Matt, dans une mise en scène de Michel Bertrand, des élèves de l'école secondaire Joseph-François Perrault raconteront l'histoire du mouvement des luttes populaires dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Rappelons qu'il y a 50 ans, les gouvernements de l'époque prévoyaient de raser le secteur de la rue Saint-Gabriel pour laisser place à une autoroute, des tours administratives et des hôtels. C'est la résistance citoyenne qui a permis de préserver le secteur. Deux représentations auront lieu demain, samedi, à 14h et 19h. Contribution volontaire. Avis aux musiciennes et musiciens, l'harmonie de la relève de la capitale cherche à combler des pupitres, particulièrement dans les sections des percussions et des trompettes. Les autres instruments sont également bienvenus. Pour plus de détails, visitez le site harmoniedelarelève.com. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Simplicité. La plupart des luxes et nombre des soi-disant conforts de la vie sont non seulement non indispensables, mais agissent, qui plus est, comme des obstacles à l'élévation de l'humanité. En ce qui concerne le luxe et le confort, les humains les plus sages ont toujours vécu une vie plus simple et plus humble que les pauvres. Les philosophes antiques, qu'ils fussent chinois, hindous, perses ou grecs, formaient une classe d'hommes sans aucun égal en pauvreté extérieure et richesse intérieure. Nous en savons peu à leur sujet. Il est cependant remarquable que nous en sachions autant que nous en savons. La même chose est vraie au sujet des réformateurs et bienfaiteurs de l'humanité les plus modernes. Nul ne peut être un observateur avisé et impartial de la vie humaine s'il la considère depuis un point d'observation autre que ce que nous devons bien appeler la pauvreté volontaire. Le fruit d'une vie dans le luxe est le luxe, que ce soit en agriculture, dans le commerce, en littérature ou dans les arts. Il existe aujourd'hui des professeurs de philosophie, mais aucun philosophe. S'il demeure cependant admirable d'enseigner la philosophie, c'est parce qu'il fut jadis admirable de vivre selon ses principes. Être philosophe, ce n'est pas seulement nourrir des pensées subtiles ni même fonder une école, mais aimer la sagesse au point de vivre selon ses exigences. C'est vivre une vie de simplicité, d'indépendance, de magnanimité et de confiance.
Je veux chemin nouveau à défricher. Je veux des lunes d'été à raconter. Je veux en nous-mêmes de nouveaux sols à irriguer. J'ai devant moi la vie, j'ai devant moi la vie. Devant moi, la vie pour agir. Je veux des portes qui s'ouvrent à l'autre. Je veux des terres d'accueil pour l'exilé. Je veux des matins de liberté. Liberté. Je veux des terres cultivables pour l'espoir. Je veux des chevauchées de rêves dans la nuit noire. Je veux des navires de paix dans nos mémoires. Devant moi la vie pour écrire. J'ai devant
Alors, bienvenue en toute simplicité. Aujourd'hui, on va poursuivre, comme la semaine dernière, là, je vais vous parler de l'hiver. J'ai des lectures aussi que je vais vous proposer, notamment, là, encore une fois, le taureau Yogi des Bois, les sagesses orientales. Je vais vous parler aussi du dernier numéro de Philosophie Magazine qui vient d'arriver en kiosque. Mais avant, je vais... j'ai quelques annonces. Il y a le jeudi prochain au café librairie Le Mot de Tasse, pour ceux qui s'intéressent, on aura un café philo jeudi soir. Habituellement, c'est le vendredi. Cette fois-ci, c'est le jeudi. Jeudi 29 à 19h à la librairie café Le Mot de Tasse. Ensuite, je rappelle aussi, pour ceux qui s'intéressent, il y aura Frédéric Lenoir qui va venir à Québec le 6 février. Et au Palais Montcalm, il donnera deux conférences. C'est la même conférence qu'il donne deux fois. Une en après-midi, puis une en soirée. Si ça vous intéresse, informez-vous, communiquez immédiatement avec Palais Montcalm parce que je ne suis pas certain s'il reste encore des places. Alors voilà, dans les annonces. Dans mes lectures de cette semaine, dans le devoir de lundi dernier, la production mondiale de café laisse un goût amer. C'est un compte-rendu de l'essai, d'un essai sur le café qui s'appelle « L'essai, la jungle du café ». C'est par Pierre-Wolf Mondou aux éditions Plomb, qui est sorti en 2025. On dit « Au réveil, entre deux réunions ou après le repas, le café rythme nos journées. Avec 2,5 milliards de tasses consommées chaque jour, il figure parmi les boissons les plus populaires au monde. Mais sait-on vraiment qui le cultive, comment et à quel prix? Dans la jungle du café, le journaliste français Pierre-Wolf Mandrou enquête sur l'industrie de cet art noir qui enrichit les multinationales et laisse sur le carreau les petits producteurs. Les petits producteurs ne gagnent rien. Ils ne vivent pas du café ou très peu, alors qu'ils représentent 80 % de la production mondiale. Ce n'est pas normal quand on sait que le café rapporte de plus en plus d'argent, souligne-t-il au devoir. Alors, on y parle là, de la situation mondiale du café. Comment acheter du café de façon éco-responsable? Alors, il y a un petit guide pour ceux qui s'intéressent. C'est dans comme je vous disais, c'est dans le devoir de lundi, le 19 janvier. Alors, on dit « miser sur la transparence, c'est simple. Plus un café est traçable, mieux c'est. Le consommateur devrait au minimum connaître son pays d'origine. » Les meilleurs torréfacteurs vont même partager sur leur paquet ou leur site Internet, la région, l'altitude, le nom de la coopérative ou de la ferme, parfois même l'espèce et la variété du café. Alors, évidemment, si c'est produit par une coopérative, bien, c'est déjà mieux. On dit aussi rechercher le bon label. Plusieurs labels font la promesse d'un café durable et équitable. Leur logo à poser sur le paquet, sur les paquets, sert surtout à rassurer les consommateurs pressés. On dit il y a différents labels, Rainforest Alliance, 4C, Café Starbucks, mais ne servent à rien, en fin de compte. Ces labels-là ne servent à rien, mais... On dit le seul logo fiable, c'est le logo Fair Trade. Ensuite, fuir les bas prix. Si le prix est très bas, n'espérez pas de miracle. Ce ne sera pas bon. Évitez les capsules. Privilégiez les indépendants plutôt que les multinationales. Puis on parle aussi dans l'article, dans le texte, à cela s'ajoute la destruction des sols. Le Vietnam, par exemple, a passé en 10 ans du 28e au deuxième rang mondial a intensifié l'usage d'engrais et de pesticides sur ses plantations au point de rendre certaines terres impropres à de nouvelles cultures. Alors, même il y a certains pays qu'on recommande peut-être d'éviter parce que les pratiques ne sont pas écologiques, sont pas éco-responsables. Alors, comme je vous disais, c'était dans le Devoir de lundi. Un autre texte que j'ai retenu dans le Devoir de lundi dernier, « Capter la neige pour mieux résister aux sécheresses ». C'était des chercheurs qui ont développé une façon de capter la neige. En fait, c'est comme des brise-vents amovibles en bois qui ont installé dans le Bas-Saint-Laurent. Puis ces brise-vents-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils accumulent la neige autour d'eux. Et ça permet, quand la neige fond, d'alimenter la nappe phréatique. Parce qu'on sait, dans certains endroits du Québec, surtout du côté sud, là, on commence à avoir des problèmes au niveau d'approvisionnement en eau. Les nappes phréatiques se vident et c'est l'hiver que les nappes phréatiques se remplissent. Parce que quand la neige fond, c'est ça. C'est la neige qui vient remplir les nappes phréatiques. Alors, article intéressant. Capter la neige pour mieux résister aux sécheresses, une solution expérimentée dans le Bas-Saint-Laurent pour aider des municipalités qui manquent d'eau et s'inquiètent pour l'avenir. Alors, c'est toujours intéressant de voir la créativité, l'inventivité. Puis c'est tout simple. Là, c'est des brise-vents en bois, environ 7-8 pieds de haut. Et voilà. Dans le Devoir de lundi. Dans le Devoir d'aujourd'hui, on parle que Québec revoit à la baisse ses ambitions climatiques. Le gouvernement repousse sa cible de GES de 2030 à 2035, une décision fustigée par le Comité consultatif sur les changements climatiques. Le gouvernement du Québec reporte sa cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre, une décision immédiatement critiquée par son Comité consultatif sur les changements climatiques qui voit un inquiétant recul. Toujours dans le Devoir d'aujourd'hui, un bon texte de José Blanchette, la chronique de José Blanchette, « Manger comme un homme », elle parle de la consommation de viande qui reprend. Il fallait s'attendre à un recul là aussi. Et les Américains n'ont pas seulement beaucoup de munitions en réserve, ils ont un lobby de producteurs de viande fort actif. Les dernières recommandations du guide alimentaire américain présenté par Robert F. Kennedy, secrétaire à la santé, font foi d'un recalibrage idéologique. Elles nous rappellent qu'un homme, ça ne gagne pas le Groenland avec de la quiche au tofu. Cette nouvelle pyramide inversée où trône un beau gros rib steak, un poulet grillé, une pointe de fromage, ne laisse aucun doute sur les priorités de l'époque. Les protéines animales sont devenues une obsession pour beaucoup d'hommes qui se sont laissés séduire par le culturisme et sa symbolique virile. Mais l'industrie alimentaire ne rate pas une occasion de valoriser le mot « protéine » partout, du yogourt grec au pain tranché jusqu'au granola. Les animaux d'élevage représente une source d'énergie intermédiaire entre les plantes qu'ils ingèrent et l'humain. Leur prix est devenu un irritant et leur impact environnemental n'est plus à démontrer. On dit que... c'est simple, c'est que ça fait 70 ans, peu importe les 70 ans de recherche en nutrition, la découverte de l'importance du microbiote, les preuves multiples qu'une alimentation à base de plantes diminue considérablement les maladies cardiaques, le diabète de type 2, les cancers et améliore les performances sexuelles. On dit, pour faire simple, pour faire une simple analogie avec notre consommation d'énergie, c'est tous les êtres humains consommaient comme un Américain ou un Canadien, incluant l'alimentation, nous aurions besoin de 5 planètes Terre par année pour subvenir à nos besoins. Nous consommons à l'excès et bouffons trop et de tout en matière d'énergie et nos dépenses caloriques évachées derrière nos écrans. Alors, c'est ça, bon texte de José Blanchette qui nous rappelle que En fait, on devrait éviter de manger de la viande. Et là, ben, on recule. Puis aux États-Unis, on a même, on fait même l'apologie de la consommation de viande, qui n'est pas soutenable, parce que, comme elle dit dans le texte, c'est que pour produire de la viande, ça prend beaucoup, beaucoup d'eau, beaucoup de plantes, dont on pourrait se nourrir directement. Alors, c'est une perte, c'est pas écologique. Il faut réduire sa consommation de viande. Dernier texte dans le Devoir que je trouvais intéressant. À Paris, les rues aux enfants fleurissent devant les écoles. C'est certain que Paris, c'est une ville qui est dense et qu'il y a la possibilité de fermer des rues. On dit qu'à Paris, on a fermé en 5 ans plus de 300 rues devant des écoles ont été piétonnisées à Paris pour protéger la santé des enfants et créer un lieu d'échange entre les parents. Alors, c'est une ville formidable, Paris, qui devient conviviale de plus en plus et qui fonctionne parce que ce qui l'aide, c'est sa densité. On dit à Montréal, une poignée de rues ont vu le jour depuis la pandémie, dont la plupart ne sont pas piétonnées toute la journée. Une seule école du plateau Montréal a été dotée d'une place piétonne permanente, la place Lange-Cornu, dont le Parti Projet Montréal voulait s'inspirer pour créer 20 rues-écoles sur l'île avant sa défaite électorale de novembre dernier. En France, d'autres villes comme Lyon, Grenoble déploient déjà leur propre version des rues aux enfants. Alors, je trouve c'est intéressant. Je ne sais pas si à Québec ça s'appliquerait. Probablement qu'il y a des rues qui pourraient être fermées sans rendre trop la ville impraticable. C'est que on n'est pas beaucoup doté encore d'un bon système de transport en commun, le métro, et puis la ville est étendue. Bref, il faut faire attention pour pas trop copier des villes qui n'ont pas la même structure que nous, mais on devrait quand même s'en inspirer. Alors, on prend une petite pause musicale, puis au retour, là, je vais vous parler du dernier Philosophie Magazine.
Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night, the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing the winds of silence. And the people bowed and prayed to a
sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering sounds of silence.
Bon, un classique, The Sound of Silence, Simon and Garfunkel. Alors, je vous disais, le nouveau Philosophie Magazine vient d'entrer en kiosque. C'est le numéro d'hiver 2025-2026. Franchement, c'est un numéro qui a beaucoup de choses dedans, fort intéressant. La thématique, c'est moi, moi et encore moi. Comment sortir de sa bulle? Alors, il y a plusieurs textes sur... en fait, c'est un peu le thème de notre émission cette année, l'identité. On est souvent refermé sur nous-mêmes, dans nos bulles. Et là, il y a plusieurs textes qui nous font réfléchir sur comment sortir de nos bulles. Il y a aussi, dans le cahier central, tout, il y a un petit tour, un petit livret qui vient avec le Philosophie Magazine. Et c'est sur Bertrand Russell, La quête du bonheur. Et je l'ai parcouru rapidement, mais c'est un classique. La recherche du bonheur, le livre de Bertrand Russell, c'est un classique qui est présenté par un philosophe. Il y a une préface, Albert Moukaibert. En tout cas, si vous voulez connaître Bertrand Russell, c'est dans le dernier Philosophie Magazine. Le livre que Bertrand Russell avait écrit s'intitule « La conquête du bonheur ». Puis, comme je vous dis, dans le cahier du centre, c'est un résumé du livre, quelques extraits du livre. J'ai retenu dans cette série de textes-là sur sortir de son ego, de sa bulle, un texte de Rebecca Shanklin. Être altruiste, ça rend heureux. Pour se sentir bien, il faudrait se souchouter, penser à soi, rien de plus faux, proteste Rebecca Shanklin. C'est plutôt aider les autres qui rend heureux. La spécialiste de psychologie positive nous explique comment cultiver l'altruisme pour notre bien. On croit souvent que le bien passe par la capacité à s'accorder de petits plaisirs individuels au lieu de perdre son temps à aider autrui. Qu'en dit la science? Rebecca Shanklin, cette idée est erronée. Les études le montrent, venir en aide à autrui augmente notre bien-être bien plus que se centrer sur soi-même. Lorsqu'on donne de l'argent à des gens en leur disant de l'utiliser, soit pour se faire plaisir, soit pour autrui, ceux qui optent pour la seconde option ont des émotions plus positives. Il en va de même lorsqu'on accomplit un geste bienveillant, même banal. Cela a des effets sur la santé mentale avec une réduction des symptômes anxieux et dépressifs, mais aussi sur la santé physique. Lorsque des patients atteints de douleurs chroniques en aident d'autres, ils voient leur propre douleur diminuer. Par ailleurs, se sentir connecté aux autres diminue la sécrétion de cortisol et donc le risque de mortalité prématurée. Alors, on en a parlé depuis le début de la saison, c'est que faut élargir notre identité. On vit dans des égos qui sont un peu des illusions. Notre identité est beaucoup plus large et il y a des pratiques comme ça qui peuvent nous aider à élargir notre identité. On va en parler aussi des animaux, le lien qu'on a avec les animaux. Nous sommes des animaux, nous sommes des êtres vivants, le lien avec la vie. Alors, cela concerne tout le monde. L'altruisme rend heureux, quel que soit l'âge. Un enfant qui donne des bonbons à un autre est plus satisfait que lorsqu'il en reçoit, ce qu'on mesure aux expressions faciales. Il en va de même chez les personnes âgées qui s'engagent dans des associations pour venir en aide à d'autres. Des études ont également été menées auprès des adolescents chez qui la tendance à être trop auto-centré est un facteur de risque en matière de santé mentale. Quels mécanismes peuvent expliquer ces effets de l'altruisme sur le bien-être? Il y en a plusieurs. Le fait de pouvoir aider autrui augmente le sentiment d'utilité sociale, qui est une composante essentielle du bien-être psychologique. Nous avons besoin de donner du sens à notre vie, mais aussi d'avoir une bonne image de nous-mêmes. En aidant autrui, nous mobilisons des compétences et augmentons ainsi notre sentiment de maîtrise, notre sentiment de pouvoir agir sur les situations, ce qui nourrit la confiance en soi. Par ailleurs, les actions altruistes augmentent la vitalité, même si ça demande du temps et de l'énergie d'apporter de l'aide aux autres. Ça nous en apporte aussi en retour, notamment en stimulant le système de récompense. Les neuroscientifiques appellent cela le shoot de l'aidant. Notre cerveau nous dit de continuer comme lorsqu'on satisfait des besoins physiologiques. Aider autrui a aussi des effets indirects sur notre santé mentale en nous donnant l'énergie de nous engager dans des actions collectives, ce qui diminue le sentiment de solitude. Enfin, s'engager pour améliorer la situation d'autrui nous incite à adopter nous-mêmes le bon comportement. Par exemple, on a observé que les alcooliques anonymes qui accompagnent les autres à sortir de leur addiction font eux-mêmes des progrès. De même, lorsqu'un partenaire dans un couple essaie de faire un régime, c'est celui qui soutient l'autre dans sa démarche qui perd plus facilement du poids. Nous avons du mal à supporter la dissonance cognitive, soit le décalage entre ce que l'on prône et ce que l'on fait. Alors, c'est un extrait là, du texte de Mme Rebecca Shackland dans le Philosophy Magazine. Puis une autre revue qui est en kiosque présentement que j'aime bien, c'est un numéro spécial, Sciences humaines, c'est un genre d'art-série, Les sagesses orientale. Puis j'ai justement, c'est en lien avec ce que je vous ai lu, il y a un texte de Mathieu Ricard, « Le paradis, c'est les autres ». Pour le moine bouddhiste Mathieu Ricard, l'altruisme est une nécessité absolue dans le monde contemporain. Il est aussi une puissante source de bonheur. Quelles sont pour vous les relations entre altruisme et bonheur? Diverses études ont permis d'observer de fortes corrélations entre les pratiques altruistes et le bien-être des individus. Elles montrent que le fait de pouvoir aider les autres va de pair avec un niveau élevé de bien-être. Les personnes qui font du bénévolat semblent plus heureuses, en meilleure santé, vivent plus longtemps. Mais on sait bien qu'il ne faut pas confondre cause et corrélation. Est-ce parce qu'on est plus heureux qu'on devient plus altruiste? On donne plus volontiers une pièce à quelqu'un si on est de bonne humeur, par exemple, ou l'inverse. Il y a cependant pour moi un lien fondamental entre altruisme et bonheur. L'argument qui revient souvent est qu'on agit de manière altruiste pour se faire du bien, dans une quête égoïste en quelque sorte. Or, ce bonheur personnel est un effet secondaire qui arrive de surcroît. Tout comme le paysan qui cultive du blé pour nourrir sa famille, récolte en prime de la paille pour son bétail. C'est l'intention altruiste sincère qui fait que vous vous sentez bien. La recherche du bonheur égoïste semble vouée à l'échec pour plusieurs raisons. D'une part, la rumination centrée sur soi-même nous rend le plus souvent misérables, du fait que nous devenons très vulnérables à tout ce qui peut affecter nos sentiments égocentrés. D'autre part, vouloir construire son bonheur personnel en restant isolé dans sa bulle de son ego, comme on parlait tantôt, la bulle, repose sur un postulat erroné selon lequel les individus sont des entités indépendantes les unes des autres. En réalité, nous sommes fondamentalement interdépendants et notre bonheur ne peut se construire qu'avec les autres. Chacun de nous possède une riche palette d'états mentaux. L'altruisme, comme l'égoïsme, ont été des facteurs de survie dans l'évolution. Les émotions humaines ont toute une raison d'être. La colère permet de surmonter les obstacles. Aristote le disait déjà, l'homme est un animal social. De nombreuses recherches ont établi que dès l'âge de 1 an, les enfants manifestent spontanément des comportements d'entraide, de coopération qui ne leur ont pas été appris par les adultes et qu'ils préfèrent les gens qui se montrent bienveillants les uns avec les autres. Les récompenses et les punitions n'influencent pas ces comportements et ont même un effet contraire. Ce n'est qu'après l'âge de 5 ans que l'enfant apprend à se montrer plus circonspect dans ses choix et assimile pas à pas les normes culturelles en vigueur dans la société dans laquelle il évolue. Il cesse alors de coopérer inconditionnellement. C'est donc tout le contraire de ce qu'avançaient à la fois Sigmund Freud et Jean Piaget, qui voyaient le petit humain comme entièrement égocentré au départ. À l'adolescence et à l'âge adulte, certains entendent à nouveau le cercle de l'altruisme, étendent à nouveau le cercle de l'altruisme et ressentent un profond sentiment d'humanité partagée avec les autres êtres humains et d'empathie pour tous ceux qui souffrent. Mais comme tout potentiel, que ce soit pour apprendre à lire ou faire du vélo, les émotions humaines, notamment le bonheur, doivent être cultivées pour se développer. Je m'étonne toujours qu'on omette de les inclure dans les programmes scolaires. L'aptitude au bonheur est une capacité qui s'entraîne. La recherche sur la plasticité cérébrale, mais aussi sur le rôle des facteurs épigénétiques, mis en évidence depuis peu, atteste des effets de l'entraînement de l'esprit sur les transformations personnelles. Alors, c'était dans la revue de Sagesse orientale. C'est un hors-série Science humaine, un texte de Mathieu Ricard sur l'altruisme et Philosophie magazine qui est en kiosque présentement aussi. Moi et encore moi, comment sortir de sa bulle, deux textes sur l'altruisme. Alors, on prend encore une petite pause musicale. Puis au retour, je vais vous parler un peu de l'hiver et aussi de pratiques saines pour l'hiver. Alors, c'était Nathalie Choquette qui nous chantait une pièce de Bach qui s'appelait Arioso. Alors, j'ai un extrait que je vais vous lire de L'homme et l'hiver au Canada. Je ne sais pas si c'est trouvable. C'est un livre qui a été publié dans les années 40, je crois. Non, 1957. C'est un classique sur l'hiver, qui est un des meilleurs livres que j'ai lu sur l'hiver, par un géographe français qui s'appelle Pierre Desfontaines, qui était venu ici au Québec dans les années 40, je pense. Et ça prend un regard extérieur pour pouvoir nous observer. Alors, c'est juste un court extrait que je vais vous lire. Comme je vous disais, je veux revenir sur l'hiver là, dans les émissions qui viennent. Alors, à chaque émission, je vous lis quelque chose sur l'hiver. Alors, il nous parle du continent entre une glacière et une bouilloire. L'Amérique du Nord a son plus large étalement en zone polaire, à l'inverse de l'Amérique du Sud, dont la plus grande étendue est sous l'équateur. Sur la première, on pesait gravement les influences arctiques. Sur la seconde, les prédominances équatoriales. Le Canada occupe précisément les lieux où le continent américain entre en contact avec l'Arctique. Nulle part au monde, il n'y a des terres polaires aussi septentrionales et aussi étendues. Ces terres sont cernées par un dédale de bras de mer et de golfe qui permettent une certaine pénétration des influences de l'océan glacial. Un de ces golfes, qui est une vraie mer intérieure, la baie d'Hudson, descend même jusqu'à la latitude de Londres. Cependant, une des mers les plus froides au monde, plus que la mer Blanche ou la mer d'Ostock. Les eaux restent gelées les deux tiers de l'année, véritable pôle répulsif qui contribue à accentuer la septentrionalité de l'Amérique du Nord et diminue la valeur des idées. Des étés, excusez. Même la Sibérie ne connaît pas une telle rentrée des influences marines polaires et les étés sont meilleurs. Mais cette Amérique possède en même temps une des mers les plus chaudes de la Terre, le golfe du Mexique, traversé par le tropique. Singulière situation que celle de ce continent dont le vaste couloir central qui traverse les terres sans obstacle du nord au sud se termine à ses deux extrémités, d'un côté par une bouilloire et de l'autre par une glacière. On imagine les batailles atmosphériques qui se livrent entre ces pôles de sens opposés. Elles font succéder brusquement et capricieusement des saisons différentes. Alors, notre géographie, là, on s'en rend pas compte, mais la baie d'Hudson, c'est une glacière. Et une des étendues d'eau les plus froides sur la planète. Et au sud, on a une bouilloire qui est le golfe du Mexique, qui est une des étendues d'eau les plus chaudes sur la planète. Alors, on peut comprendre pourquoi qu'on a tant de neige, on a tant de systèmes, parce que c'est une interaction entre ces deux étendues d'eau-là, une très chaude, l'autre très froide. Alors, c'est intéressant. Ça prenait quelqu'un d'extérieur pour venir nous faire réaliser cette réalité-là. Là, je vais poursuivre avec une pratique pour l'été, pour l'hiver, on devrait commencer à méditer. L'hiver, c'est une période que je dirais qui nous force à ralentir, pratiquer le ralentissement, ralentir nos vies. Et je pense que la méditation, c'est une méthode par excellence pour le ralentissement. Alors, je vous lis un texte de Christophe André, « Le temps de méditer ». Christophe André écrit plusieurs textes sur la méditation. Je le recommande. Il nous propose la méditation qu'on appelle laïque, qui, en fait, c'est une pratique de l'esprit qui n'est pas religieuse. Alors, il dit « Comment définir la méditation? » Il existe mille et une manières de définir la méditation, mais la plus simple et peut-être la plus juste est de la comprendre comme un entraînement de l'esprit, un entraînement qui va nous aider à cultiver des capacités psychologiques tels que l'attention, l'équilibre émotionnel, le recul, le calme intérieur, la lucidité sur nous-mêmes et le monde, la tolérance, la bienveillance. Dire que la méditation est un entraînement de l'esprit, c'est reconnaître que notre seule volonté ne nous suffit pas pour changer. Nous avons conscience que c'est le cas pour notre corps, mais souvent nous l'oublions quand il s'agit de notre esprit. La méditation est ainsi un acte d'humilité. Nous savons bien qu'on ne peut pas décider du jour au lendemain de courir plus vite ou plus longtemps, d'être plus musclé ou plus souple. Nous savons que pour cela, nous allons devoir nous entraîner, faire des footings, du yoga, de la musculation. Il en va de même pour notre esprit. Nous ne pouvons pas décider du jour au lendemain de moins stresser, d'être plus calme, plus généreux, d'avoir plus de recul, plus d'attention et de concentration. Si nous voulons progresser dans ces domaines, nous allons devoir, là aussi, travailler régulièrement, accepter pour progresser l'idée d'une culture mentale à l'image de la culture physique. Et la méditation est exactement cela, un entraînement de l'esprit. La méditation est un acte d'humilité, donc, mais aussi un acte d'audace et de créativité. Nous, oui, nous pouvons changer, même dans des domaines que beaucoup pensent figés, comme les traits de caractère ou de personnalité. Oui, nous pouvons désobéir ce qui ressemble à un destin écrit par notre passé. Oui, nous pouvons nous libérer des prisons, parfois confortables de nos habitudes. Nous pouvons modifier notre manière de voir le monde et l'habiter sans médicaments, sans implants cérébraux, sans transhumanisme. Nous pouvons changer en méditant régulièrement. Nous pouvons explorer le fonctionnement de notre esprit et accepter certaines limites ou en repousser d'autres et finalement cultiver ce qui nous aide à devenir de meilleurs humains. La méditation n'est pas vraiment quelque chose de nouveau, même si elle est actuellement et incontestablement l'objet d'une mode. C'est même une vieille histoire, puisque voilà plus de 2500 ans que l'on médite, en Orient comme en Occident, mais cela ne fait qu'une trentaine d'années que les recherches scientifiques ont confirmé les vertus de la méditation, ses capacités à transformer le fonctionnement de notre esprit et ses bénéfices sur notre santé physique et psychique. On parle de la méditation, mais on devrait dire les méditations, tant il en existe de nombreuses formes, qu'il s'agisse du zen japonais ou des pratiques tibétaines, des oraisons silencieuses des pères du désert dans le christianisme ou de la Murakaba, des mystiques soufis dans l'islam. Presque toutes les cultures ont développé et exploré leur propre tradition méditative. C'est toutefois dans le bouddhisme que les réflexions et les pratiques ont été les plus approfondies et codifiées, d'où la fréquence des références à ce courant, même chez les méditants laïcs. Cependant, lorsqu'on parle de la méditation, sans plus de précision, c'est de pleine conscience qu'il s'agit. La méditation de pleine conscience est la codification contemporaine d'un ensemble de techniques issues de la tradition bouddhiste vipassana. Cette adaptation moderne d'une pratique ancienne est due à l'intuition et la vision d'un chercheur pionnier, le biologiste américain Jon Kabat-Zinn. Pratiquant le zen et le vipassana, il comprend dans les années 70 que les bienfaits de ces approches toucheront beaucoup plus de monde si le discours qui les entoure s'allège des références à la foi bouddhique et devient laïque. Il met alors au point un protocole simplifié d'apprentissage de la méditation adapté au mode occidental, la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience prévoit présente trois caractéristiques importantes. Il s'agit d'une méthode laïque. Elle est simple d'accès et d'apprentissage. Elle est validée par la recherche scientifique. Et ces trois points expliquent son immense succès actuel. En quoi consiste-t-elle exactement? Voici ce qu'en dit Jon Kabat-Zinn lui-même. Pour l'observateur extérieur, cela peut paraître étrange, voire un peu fou. On dirait que rien ne se passe et d'une certaine manière, rien ne se passe. Mais c'est un rien très riche et très complexe. Les personnes que vous observez ne sont pas en train de rêver ou de dormir. Vous ne pouvez pas voir ce qu'elles font, mais elles travaillent dur. Elles s'ajustent activement à chaque moment, s'efforçant de rester éveillées et conscientes d'un instant à l'autre. Elles pratiquent la pleine conscience. Mais on pourrait aussi dire qu'elles s'entraînent à être. Pour une fois, elles arrêtent délibérément tout ce qu'elles sont en train de faire dans leur vie et se détendent dans le présent sans essayer de remplir mille et une choses. Elles permettent délibérément à leur corps et à leur mental de se reposer dans l'instant, peu importe ce qui encombre leur mental ou comment se sent leur corps. Elles se connectent aux expériences de base de la vie. Elles permettent simplement d'être présentes à l'instant, les choses étant telles qu'elles sont, sans essayer de les changer. Alors, c'est un extrait du livre « Le temps de méditer » de Christophe André. On prend une dernière petite pause musicale, puis on va conclure au retour. C'était Philippe Glass. C'était, en fait, ça s'est tiré de la bande sonore du film Kundun. C'est un film qui se passe au Tibet, là, qui raconte l'histoire de la fuite du Dalai Lama, le film. Et la pièce que j'ai fait jouer, c'est Reading's Eyes. Alors, pour conclure l'émission, il nous reste quelques minutes, je vous lis un extrait du livre que je vous lis depuis quelques temps, d'ailleurs. « Taureau, yogi des bois » de Colette Poggi. Colette Poggi, c'est une personne qui est experte dans la philosophie et spiritualité de l'Inde. Et elle fait un lien entre les écrits de Taureau et le yoga. Elle trouve que Taureau, ce que fait Taureau se rapproche beaucoup de la pratique du yoga. Alors, d'où le titre Taureau, yogi des bois, Colette Poggi, P-O-G-G-I. Alors, je vous lis quelques lignes du chapitre L'arbre, symbole de l'unité cosmique. Humus, humain, humanité, trois termes de même origine. L'humus, La terre, en latin, est le résultat de la décomposition des matériaux organiques dans le sol, ce qui contribue à sa fertilité. De l'humus naissent les arbres et des arbres naît l'humus. Taureau honore ces êtres majestueux, emblématiques de la biosphère, comme les yogis de l'Inde vénèrent la déesse Bhudevi, divinité de la terre et de la vie. L'arbre n'est pas seulement à ses yeux un végétal, un élément anonyme du paysage. Chacun est doté d'une personnalité unique avec laquelle il tisse un lien originel. À la manière des yogis, il entretient pour eux un sentiment d'interconnexion et d'unité qui prend sa source aux origines de la culture indienne. Avant-coureur de la conscience écologique, il perçoit, grâce à sa sensibilité intuitive, le rôle fondamental que jouent les arbres pour l'équilibre naturel, si vulnérable, menacé de crises aiguës dans l'ère actuelle du Kali Yuga. Converser avec un arbre, amoureux du silence, Taureau ne cesse d'échanger avec les arbres. Une conversation sans égo dans laquelle la parole, le souffle sont sacrés. Alors, il nous présente un extrait de Walden, de Taureau, Henri-David Taureau, d'ailleurs que je vous lis à chaque semaine en début d'émission. Au lieu de faire visite à quelques savants, j'allais souvent voir des arbres particuliers, espèces rares dans le voisinage, qui étaient soit au milieu de quelques pâturages au loin, ou dans les profondeurs d'un bois ou d'un marécage, ou sur la cime d'une colline, comme le bouleau noir. Son cousin, le bouleau jaune, avec son manteau doré flottant, embaumé comme l'autre, le hêtre au tronc si noble, si bien revêtu de lichen. Le tilleul, le charme, le celstice occidentalisme ou faux ormeau dont nous n'avons qu'un beau spécimen de pin, haut comme un mât, un chêne laurier ou quelques sapins du Canada, plus parfait que de coutume, debout comme une pagode au milieu des bois. C'était là des sanctuaires que je visitais été comme hiver. Alors, Mme Poggi continue. Entre les arbres et le yogi des bois vibre une entente tacite. Au gré des sentiers, des rumeurs, des lueurs, il déchiffre le réel. Tout fait signe. Dans l'autre livre bien connu de Taureau, « Sept jours sur le fleuve », l'arbre laisse en transparence entrevoir l'image de l'harmonie homme-arbre-univers. En voyant cet arbre, nous nous sommes rappelés que nous étions parvenus dans un pays qui nous était inconnu. Tout en voguant sous cette canopée de feuilles, nous apercevions le sel à travers ses entrebâillements. Et, en quelque sorte, l'image de cet arbre imprimée en un millier de hiéroglyphes sur les cieux. L'univers est si bien adapté à notre organisme que le regard vagabond se repose en même temps. Il y a toutes sortes, de toutes parts, quelque chose qui apaise et stimule ce sens. Les feuilles ont des formes encore plus variées que les lettres de tous les alphabets réunis. Si l'on prend celle du chêne, il n'y en a pas deux pareilles. Chacune exprime son propre caractère. Ça me fait penser au film que je vous ai parlé, Les jours parfaits, que je vous recommande, qu'on voit le personnage principal qui prend des photos des feuilles dans le soleil. C'est une pratique traditionnelle au Japon. On parle, c'est le regard des feuilles, c'est un moment unique, un instant présent unique. Alors, on termine sur ça et on se revoit la semaine prochaine. Alors, bonne semaine à tous.
Vous écoutez CKIA 88.3 au cœur de la ville.
Salut, c'est François Laplace, boutique gourmande. Tu veux faire une différence dans le quartier? Ben nous, on embarque avec toi. Comment?